Vous écoutez Il était une voix, une émission de belle histoire racontée par des personnes passionnées par la lecture et des contes sur la Radio Mucho.
Je m'appelle Myriam Bergeron, je suis professeure de 5e année à l'école Beaubassin. J'habite ici depuis 3 ans, je viens du Québec originairement, mais mon mari était militaire, alors on a déménagé souvent, puis on a adoré la Nouvelle-Écosse, fait qu'on a décidé de prendre notre retraite ici. Alors mon mari est retraité, mais pas moi, donc j'enseigne la 5e année. C'est la gentillesse des gens. Ça a été le critère qui nous a décidé parce qu'on a habité dans plusieurs provinces, on a habité dans différents pays aussi. Puis la Nouvelle-Écosse, on y est revenu 2 fois, on habitait dans la région de Greenwood. C'était tellement plus calme, plus lent, plus agréable. Les personnes étaient plus gentilles, plus humaines. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'élever nos enfants ici, finalement. Le français, c'est mes racines. Puis mes racines sont très, très, très importantes pour moi. Alors, j'ai transmis ma langue à mes enfants. Mon mari est anglophone, par contre. Donc, mes enfants parlent les deux langues. Puis à la maison, ils entendent les deux langues. Le français, c'est celle qui est... Si on la cultive pas, c'est celle qui va mourir dans un environnement anglophone. Donc, pour moi, c'est très, très, très important. Puis l'école Beaubassin, c'est l'opportunité de mes enfants, que mes enfants ont pour parler français, puis continuer à grandir en français. Quand j'étais petite, ma mère, à tous les soirs, me lisait des histoires. Je lui demandais souvent de me relire les mêmes. Donc, on avait la collection des Disney, tous les caractères de Walt Disney, Cendrillon... Donald Duck. Puis, elle les lisait tellement souvent que je les connaissais par cœur après un bout de temps, mais c'est pas grave. Je voulais quand même les réentendre tous les soirs avant de me coucher. C'est la dernière chose que j'entendais avec ma mère. Je pense que cette connexion-là, c'est magique. Juste avant de se coucher, d'avoir ce petit moment-là tout seul avec un parent qui nous raconte quelque chose de tellement féerique. On a un film dans la tête hein, quand quelqu'un nous raconte une histoire. Toute l'imagination qui fonctionne, c'est beau. Le coquillage magique, c'est une histoire que j'ai lue souvent à mes filles. Avant de choisir cette histoire-là, j'ai pris plusieurs livres, puis j'en ai lu plusieurs à mes filles, puis c'est elles qui ont décidé, qui m'ont dit « Ah non, c'est elles qu'on peut le plus imaginer dans notre tête, qu'on voit l'histoire, puis qui est belle comme histoire à imaginer. » Fait que c'est pour ça que je l'ai choisie. Elle est un peu longue, mais je pense que l'histoire est très, très jolie. C'est une histoire japonaise que je vais lire en français. Le coquillage magique. Il était une fois un jeune garçon nommé Yoshi qui vivait dans le lointain empire du Japon, tout au bout d'une île, au lieu précis où terre et mer se rencontrent. Sans le sou, il n'avait d'autre choix pour nourrir sa famille que de marcher des heures durant sur le rivage à la recherche d'un poisson ou d'un petit crabe. Un jour, lorsqu'il longeait le littoral en quête d'un dîner, Yoshi entendit l'étrange clapotis s'élever d'un amas de roches. Un petit poisson, abandonné par la marée basse, frétillait désespérément dans une flaque d'eau peu profonde, condamné à une mort certaine. Ses écailles, aux reflets roses et argentés, luisaient au soleil. « Quel beau poisson !» s'exclama Yoshi, imaginant déjà sur son palais la saveur de sa chair. Mais, levant les yeux vers le jeune garçon, l'animal exprima une telle détresse que Yoshi sentit son cœur se serrer à l'idée de le manger. Et, malgré son ventre vide, il décida de lui laisser la vie sauve. Il remplit alors d'eau son chapeau de paille, saisit délicatement le poisson et l'y plongea en prenant soin de ne pas abîmer ses écailles. Enfin, il le porta au bord de l'eau, le fit glisser doucement et le vit disparaître dans l'onde claire. Alors qu'il reprenait sa route, Yoshi entendit une voix mélodieuse l'interpeller. « Attends, ne pars pas !» Surpris, il fit volte-face. Sous ses yeux ébahis, une somptueuse demoiselle, drapée d'un long kimono, surgit de l'eau. Son étonnement s'accrut lorsqu'il remarqua qu'elle n'avait pas de pieds. Son corps se terminait par une magnifique queue de poisson. « Je m'appelle Masami, » dit-elle. « Je suis la fille du puissant dragon des mers. Tu m'as sauvé la vie. Mon père souhaitera certainement te remercier. Je t'en prie, suis-moi. » Et avant que Yoshi ne réussisse à prononcer un seul mot, Masami se métamorphosa en une méduse géante. Tel un ruban de soie, l'un de ses tentacules enserra la taille du jeune garçon et le souleva dans les airs. Puis, la créature le posa sur son dos. Elle se laissa porter quelques instants par les vagues et plongea soudainement, entraînant son cavalier effrayé dans les profondeurs de la mer. Mais la peur de Yoshi s'évanouit bien vite, remplacée tout d'abord par l'étonnement de respirer sous l'eau, aussi bien que sur terre, puis par l'émerveillement suscité par les splendeurs de l'océan et son incroyable chevauchée. Masami nagea gracieusement jusqu'à l'entrée d'une grotte cachée au plus profond de la mer. Reprenant son apparence de sirène, elle joignit les mains et s'inclina devant Yoshi. « Sois le bienvenu dans le château de mon père. » Le toit de la grotte, recouvert de mousse et d'algues, vacillant gracieusement au gré des courants marins, ne laissait nullement présager la magnificence qui régnait à l'intérieur. Encore peu habitué à la marche sous l'eau, Yoshi suivit Masami, tant bien que mal, jusqu'à un grand hall planté de piliers de corail rose. Sous une voûte de jade sculptée, le terrible dragon des mers, tout hérissé de piquants, se prélassait sur un trône, contemplé avec respect par ses sujets aquatiques. « Père, ce jeune homme m'a sauvé d'une mort certaine sur le rivage, » dit Masami. Yoshi trembla de tout son corps lorsque le vénérable dragon posa son regard acéré sur sa frêle personne. « Ma fille incarne le plus précieux de tous mes trésors, » dit-il d'une voix grave et puissante. « Afin de t'exprimer ma gratitude infinie, demande-moi n'importe quoi, je te l'accorderai. » Yoshi ouvrit la bouche, mais seules quelques bulles s'en échappèrent car aucune idée ne lui venait à l'esprit.
« Demande-lui le coquillage magique, »
souffla Masami à l'oreille du jeune garçon.
« Pourriez-vous m'offrir le coquillage magique, votre excellence? »
Ouah! Gronda le dragon des mers. Le coquillage magique n'appartient qu'à moi. Personne d'autre ne peut oser y prétendre.
Mais père, vous avez promis de lui accorder tout ce qu'il souhaiterait, objecta Masami.
Et vous n'avez qu'une parole.
Le majestueux dragon des mers se tourna alors vers sa fille et sa moue courroucée de son visage
laissa place à un sourire attendri. « Tu as raison, mon enfant.
Que l'on apporte le coquillage! »
Un homard s'avança sur la pointe des pinces jusqu'au trône et présenta l'objet magique au jeune pêcheur. Dès que Yoshi eut saisi le coquillage, le dragon des mers lui donna congé. Alors, Masami se métamorphosa à nouveau en méduse et le raccompagna jusqu'à la plage. Là, elle s'inclina une dernière fois devant le jeune homme, les yeux toujours illuminés de reconnaissance et de tendresse. Puis regagna les profondeurs marines.
Étourdi par l'aventure qu'il venait de vivre, Yoshi s'assit sur le rivage afin de reprendre ses esprits. Une fois les remous du plongeon de Masami totalement disparus de la surface de l'eau, il ressentit l'étrange impression d'émerger d'un songe un peu fou. Mais le coquillage dans sa main lui confirma qu'il n'avait pas rêvé. L'observant de plus près, il le trouva bien ordinaire, malgré ses beaux reflets roses nacrés. Il s'agissait d'un simple coquillage. Un de ceux que les enfants ramassent sur la plage pour écouter la musique de l'océan. Nostalgique, Yoshi le porta alors négligemment à son oreille, tout en regagnant son logis. Il s'arrêta net. Le bruissement qui s'élevait de la conque n'évoquait en rien le ressac des vagues, mais plutôt le gazouillis des oiseaux. Et comble de l'étrange, le garçon comprenait parfaitement leur babillage.
Hélas, la princesse Anna se meurt,
soupirait une mésange au plumage azuré.
Et nul ne sait de quoi souffre notre maîtresse adorée.
Si, si, moi je sais,
intervint un passereau à grand renfort de pépiments.
Depuis des jours, un serpent s'est coincé entre les tuiles de la toiture du palais. Contrarié et affamé, il a manifesté son mécontentement en jetant un sort à la noble demoiselle. Mais alors,
répliquèrent les autres oiseaux, pour soigner la princesse, il suffirait de libérer le reptile de sa prison. À peine avait-il entendu ces mots que Yoshi courut jusqu'au palais, fit sonner la cloche du large portail et annonça aux gardes qu'il savait comment guérir la fille de l'empereur.
Vraiment, répliqua l'un d'eux en détaillant d'un air méprisant la tenue loqueteuse du jeune pêcheur. Et comment cela se pourrait-il?
Je connais un secret dont personne n'a idée.
Certains courtisans, intrigués, s'approchèrent et se moquèrent de Yoshi. Cependant, averti par un serviteur, l'empereur déclara :
Parmi tous les savants du royaume, aucun n'a réussi à soulager mon enfant. Laissez donc parler ce garçon.
Au chevet de la princesse Anna, quatre jeunes femmes se relayaient pour donner à boire à leur maîtresse ou lui éventer le visage, tandis que des médecins débattaient aussi bruyamment que vainement dans la chambre. D'une pâleur extrême, la malade ne bougeait pas et respirait avec difficulté. Intimidée, Yoshi s'inclina respectueusement. La princesse Anna est victime d'un enchantement, expliqua-t-il à l'empereur. Un mage serpent, piégé dans votre toiture et aveuglé par la colère, lui a jeté un sort. Si vous détruisez le toit de votre palais pour le libérer, la princesse retrouvera la santé. Aussitôt, les courtisans ricanèrent. Quant au docteur, ils pimentèrent les rires de quelques railleries et d'insultes méprisantes. Mais d'un geste, l'empereur leur intima l'ordre de se taire. « Que m'importe ma toiture si ma fille se meurt sous mes yeux? Que l'on arrache immédiatement le toit! » Les serviteurs se mirent aussitôt à l'ouvrage. Un flot de lumière s'engouffra soudainement dans la pièce. L'assemblée retint son souffle. Alors, lentement, un grand et terrifiant serpent descendit en sifflant le long d'un pilier. Puis, il s'enfuit par la fenêtre, non sans avoir dévisagé le petit pêcheur avec insistance. La princesse Anna remua légèrement. Sa respiration se fit plus nette et ses joues se teintèrent de rose. Rejetant l'épaisse couverture qui l'emmitouflait, elle se redressa et s'assit sur son lit. Les yeux embués de larmes, l'empereur serra sa fille contre lui et l'embrassa tendrement. Alors la princesse, qui semblait émerger d'un long rêve, aperçut Yoshi et un sourire illumina son visage. « Reste donc au palais. » Ta présence à nos côtés fait notre joie. »
Yoshi rougit et se prosterna devant elle.
« Votre Majesté, il est déjà bien tard. Ma famille va s'inquiéter si je ne rentre pas à la maison. »
« Sois, » répondit la princesse, qui, à chaque seconde, recouvrait un peu plus de ses forces.
« Mais alors, promets-moi de revenir bientôt nous rendre visite. »
« En attendant, jeune homme, s'écria l'empereur, acceptez ce modeste présent de la part d'un père éternellement reconnaissant. Faites-en bon usage et que votre famille ne connaisse jamais le malheur. » Saisissant le chapeau de Yoshi, il le fit remplir à ras-bord de centaines de pièces d'or.
Sur le chemin du retour, Yoshi marcha aussi vite que le lui permirent ses deux trésors, l'un fort lourd et l'autre très fragile.
Lorsqu'il tendit son chapeau rempli d'or à ses parents, ils manquèrent tomber à la renverse. « Voilà de quoi remplir nos assiettes pour des années à venir !» s'exclama son père.
« Oui, et le jour venu, vous viendrez vivre avec moi au palais impérial !» répliqua Yoshi en souriant.
« Pourquoi dis-tu cela, mon enfant ?»
l'interrogea sa mère, étonnée. Le sourire de Yoshi s'élargit et, montrant le coquillage magique à ses parents, il répondit
« À l'instant même, une jeune princesse contemple la lune depuis sa fenêtre et pense à moi. C'est un oiseau qui me l'a dit.
Vous venez d'écouter Il était une voix, une émission francophone sur la Radio Mucho. Pour plus de voix de la communauté, visitez www.muchoradio.com.